Paso doble.
Paso doble.
Vendredi, bande dessinée.
Ravi de vous retrouver, Zep, comment ça va ?
Bien, parfaitement. C'est la rentrée, donc voilà, il y a toujours des livres qui sortent et c'est agréable.
Et le dernier de vos livres a pour titre « Un bruit étrange et beau », c'est édité par Rue de Sèvres, et c'est une BD adulte, pas dans le sens où on l'entend habituellement, une BD de sexe, ça vous l'avez fait par ailleurs, mais quand je dis adulte, c'est parce que vous n'êtes plus dans le monde de l'enfance, vous n'êtes plus dans le monde de Titeuf, vous n'êtes même plus dans le monde de la jeunesse rock'n'roll qui fut la sienne, Zep, vous êtes vraiment donc dans un monde où on se pose des questions d'adultes sur c'est quoi notre passage sur Terre, pourquoi on vit.
Voilà, ouais.
C'est... Comme si vous avez décidé de vous projeter dans 15-20 ans.
C'est des questions assez, assez larges. En fait, j'avais envie de faire un album sur le silence. L'album précédent dans cette collection, dans la veine réaliste de mon travail, était un album qui était plus sur effectivement le monde du rock, puisque c'était des musiciens qui se retrouvaient après 20 ans. Et là, on est aussi sur un truc de retrouvailles, mais c'est un homme qui a fui notre monde il y a 25 ans pour aller s'enfermer dans un monastère chartreux, ce qui est un ordre qui est extrêmement radical, hein, parce que c'est non seulement le silence, mais la solitude. Hein. Chaque chartreux est isolé des autres chartreux. Et par un hasard de scénario, il est obligé de sortir de son monastère et de revenir à Paris 25 ans après.
Un quart de siècle plus tard, un héritage de sa tante va le contraindre effectivement à quitter le monastère pour Paris, la ville lumière, qui est aussi la ville de tous les bruits. Et ce sont les retrouvailles avec l'autre monde et surtout avec son ancienne vie.
Alors son ancienne vie qu'il a quittée, on le comprend au fil du récit, qu'il a plus fui que quitté en fait, hein, va lui revenir en pleine figure, mais elle lui revient par bribes. Déjà il va réapprendre à parler simplement. Je me disais, tiens, comment est-ce qu'on fait quand on s'est tu pendant 25 ans? Comment est-ce qu'on réapprend à parler, à bavarder, à être dans les formes sociales qu'on a dans notre société, quand on est dans des choses extrêmement essentielles, parce que ces chartreux finir parlent très très peu, parce qu'ils sont dans une forme de méditation perpétuelle qui fait que ils vont pas la couper pour dire il fait beau aujourd'hui. Donc comment on revient à ça, comment on revient à la parole? Et puis, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut sortir du monde? Est-ce qu'on peut dire qu'on ne fait plus partie de ce monde? Ce qui est le cas, hein, de cet homme. Il le dit lui-même, je suis mort à ce monde. Et quand on devient chartreux, on change de nom, on change d'identité. Et puis, on disparaît pour ses proches parce que il a plus de contact avec sa famille, avec ses amis. Et il a plus de contact avec le monde. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de radio, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas d'internet, il n'y a évidemment pas de téléphone, pas de SMS. Donc il ne sait pas ce qui s'est passé pendant ces 25 dernières années.
Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 25 ans, Zep?
Ah, il a fait tous les jours la même chose, en fait. Il a fait, la vie chartreuse, elle est rythmée, depuis 1000 ans, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des offices toutes les 3 heures, à peu près. Les repas sont seuls en cellule. Et puis voilà, autrement, il est seul dans sa cellule. Et une fois par semaine, il y a un temps de ce qu'ils appellent le temps de recréation où ils vont se promener. Ils peuvent, s'ils le souhaitent, aller se promener dans la nature. Souvent, ces chartreux sont dans des endroits assez magnifiques. Celle que j'ai dessinée est dans les Alpes fribourgeoises en Suisse. Et là, ils se promènent par deux et ils peuvent parler. Mais pour avoir rencontré des moines, des gens qui ont vécu des expériences proches de celle-ci et un moine chartreux, il disait qu'au bout de quelques années, ils marchent à deux, mais ils parlent pas parce qu'ils ont rien à se dire. Ils sont chacun dans une histoire de méditation très personnelle. Et lui, en fait, il est là-bas. Il raconte qu'il fait le vide, en fait. Et l'idée, c'est de faire le vide dans sa vie, le vide dans ses souvenirs, pour dégager une sorte d'horizon. Et il se dit qu'au bout de cet horizon, il y a Dieu. Donc c'est sa démarche spirituelle. Donc il passe son temps à faire une espèce de ménage comme ça dans sa vie, à effacer ses souvenirs. Et là, le fait de revenir à Paris, il va les faire tous ressortir. Et en plus, il va en créer énormément de nouveaux. Donc il va être de nouveau face à des choix assez importants.
En tant qu'auteur, Zep, pourquoi vous avez été attiré par cet homme qui choisit la solitude, le silence, le repli, le retrait, l'effacement presque?
Je trouve que c'est un moi c'est un sujet qui me fascine personnellement. Je vois, c'est incroyable ces gens qui décident de se retirer du monde. Et je pense qu'aujourd'hui c'est un sujet qui est assez qui peut être présent parce qu'on est tenté par cette par le fait de disparaître, c'est de peut-être de plus en plus difficile de trouver une place dans notre société qui affiche de manière assez claire qu'elle n'a pas tellement besoin de nous pour la faire vivre. Et donc, il y a la tentation de partir, d'être dans quelque chose qui est une forme de repli, de quête personnelle sur des choses peut-être plus essentielles que la subsistance, que la carrière professionnelle, que les rapports sociaux. Et puis, et je pense que c'est un sujet qui a beaucoup de liens avec la vie artistique, puisque en tant qu'artiste, on a ce statut un peu bizarre où on est un peu un pas à côté, on observe, alors lui, il contemple plus qu'il n'observe, mais et on a une vocation de commentaire, on peut raconter des choses sur la société, mais on n'est jamais complètement dedans. On fait
surtout,
pas vraiment partie de la vie
surtout,
artistique.
Je suppose, Zep, que vous êtes très souvent seul quand vous travaillez. Quand
c'est un métier très solitaire. Ouais, ouais. C'est un métier très solitaire. Donc ça me parlait. Alors évidemment, c'est pas la même. J'ai pas une cellule qui ressemble à celle d'un moine chartreux, mais et bon, moi je peux sortir. Il y a beaucoup de vœux que lui a fait que je n'ai pas fait, mais il y a des choses qui effectivement, je me sens des correspondances avec cet homme. Mais au-delà de ma propre histoire, je trouve que c'est intéressant de se poser la question d'être dans le monde ou de s'en extraire. Qu'est-ce que ça veut dire?
Et aujourd'hui, Zep, quand vous dessinez cette histoire, vous avez plutôt une envie de voir ce personnage évoluer ou de vous projeter dans ce personnage qui décide de se retirer?
Ah ben, les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est toujours fascinant quand on raconte une histoire, de se projeter dans le personnage qu'on va raconter. Et aussi, forcément, pour que l'histoire existe, il faut qu'il vive quelque chose qui va le transformer au fil du récit, ce qui est le cas. Mais il y a deux personnages principaux, en fait. Il y a William, qui est ce chartreux qui quitte son monastère et qui doit réaffronter un peu sa vie. On comprend qu'il la fuit parce qu'il y avait une pression familiale très forte et que c'était trop difficile d'affronter l'autorité familiale et qu'il a préféré se mettre sous l'autorité de Dieu, ce qui lui offrait une espèce de protection. Et après, on comprend aussi qu'il a une foule de petites raisons dans sa vie qui l'ont poussé à choisir cette vie qui est quand même extrêmement radicale. On ne devient pas chartreux juste parce qu'on croit en Dieu. Il faut des choses encore plus, souvent certainement inconscientes, hein, parce que c'est très souvent des gens très jeunes qui font ce genre de choix. Alors il y a lui d'un côté, et de l'autre côté il y a Mary, qui est une femme qu'il va rencontrer dans son voyage, qui est malade, qui va mourir, et qui elle est très en colère contre ce qu'elle apprend, et contre l'idée d'un dieu. Et donc il y a une espèce de dialogue religieux tout le long entre eux, et je trouve que
c'est un peu plus qu'un dialogue, c'est une liaison qui va...
Ça devient vraiment une liaison, mais dialoguer c'est une manière de créer une liaison, et aujourd'hui, on le sait plus que jamais, c'est très important que le dialogue existe plutôt que chacun se retranche dans ce qu'il croit. Et moi, j'ai aimé écrire les arguments des deux. À l'arrivée, je trouve que William, le chartreux, assume beaucoup plus le doute que Mary, l'athée, qui, elle, est remplie de certitude. Mais je trouve que les deux disent des choses qui sont intéressantes. Et je pourrais pas dire que j'adhère à l'un ou à l'autre, je sais pas. Je trouve que c'est intéressant et ce dialogue religieux, je le trouve intéressant. Moi, personnellement, je suis pas croyant, mais je trouve que ce dialogue est intéressant et qu'on a à apprendre énormément de cette richesse du dialogue-là. Parce que là, on dit des choses qui sont à la fois de l'ordre des racines, du présent, du social. Enfin, beaucoup de choses se disent à travers le fait de croire ou de ne pas croire. Ce à quoi on croit, hein, que ce soit une religion, que ce soit des valeurs sociales, une vision de société. Et c'est vachement bien que le dialogue existe, même avec des gens qui ont des positions opposées.
Et pourquoi le silence est très souvent associé à la spiritualité, d'après vous, Zep?
Je pense qu'il y a une forme de réaction normale qui est de se taire devant Dieu. C'est quelque chose qui revient souvent dans la religion, parce que la parole, on l'utilise dans les rapports humains. Et on peut pas avoir la même manière de s'adresser à un Dieu, s'il y a un Dieu qui existe, que l'on s'adresse aux hommes, je pense. Donc, l'idée du silence, c'est faire le vide, c'est une purification, c'est se taire, c'est écouter, voilà. Et c'est des choses qu'on n'a plus dans notre société. On n'a pas de silence, on n'a pas de temps. Enfin, on peut avoir des temps très courts de silence où on demande une minute de silence, mais déjà, quand on demande une minute de silence, c'est un événement. Et lui, c'est 25 ans de silence.
L'année dernière, on a beaucoup parlé du silence avec Alain Corbin qui sortait justement un livre sur le silence. Écoutez ce qu'il disait.
Il y a des bruits qui révèlent le silence. C'est ce dont était très friand Henry David Thoreau lorsqu'il se promenait dans la campagne. Pour lui, le silence était absolument essentiel, mais il fallait qu'un moustique, en quelque sorte, le fasse éprouver. Et celui que j'admire le plus dans ce domaine, c'est-à-dire dans l'histoire du silence, c'est Fromentin, l'écrivain français et peintre orientaliste qu'on ne lit plus guère, sinon son roman Dominique. Dans son livre « En été dans le Sahara », il décrit admirablement le silence du désert, qui est le silence le plus fort, sans doute. Hein. Dans ce temps du 19e siècle, c'est le silence qui est décrit avec le plus de force. Et il souligne notamment que ce silence du désert qui est particulièrement intense, qui est le silence de la transcendance, qui est le silence d'Allah, tout ce que vous voulez, en même temps est producteur d'une infinité de petits bruits.
Une infinité de...
De petits bruits.
Ouais, étranges et beaux, pour reprendre le titre de votre album, Zep.
Mm-hmm. C'est amusant parce que il parle du désert, du silence, le silence ultime qu'est le silence du désert, et les chartreux appellent leur monastère le désert. Donc ils vont dans le désert quand ils vont dans... Il y a vraiment cette démarche d'ascèse du désert. Et pas mal de religieux avec qui j'ai parlé où j'ai essayé de les faire parler un peu, ce qui n'est pas toujours très facile pour des gens habitués au silence. Sur leur vie de silence, justement, m'ont dit le silence est une personne. Pour eux, ça devient une personne. C'est-à-dire qu'ils sont en relation avec le silence. Ça devient la personne. Ils disent même pas qu'ils sont en relation avec Dieu, parce que ça reste quelque chose. Plus, en fait, ils sont dans cette vie de silence, plus peut-être ils prennent conscience que c'est quelque chose qui est lointain encore. Mais par contre, leur compagnon, c'est le silence.
Et cette quête artistique, c'est-à-dire aller à la rencontre de ce monde-là, Zep, essayer de rendre compte de ce rapport au silence à travers une bande dessinée, j'imagine que effectivement c'est un beau défi pour un artiste, pour un dessinateur, mais est-ce qu'elle s'accompagnait pour vous aussi d'une quête spirituelle ?
Non, pas particulièrement.
Alors c'est parti d'où cette histoire de raconter un bruit étrange et beau ?
Moi j'ai fait des retraites dans le silence il y a très longtemps, il y a 25 ans à l'époque en fait, où mon personnage est rentré au monastère. Mais évidemment des retraites très courtes où je partais 4-5 jours comme ça.
Pour des raisons précises ?
C'était pour faire silence, simplement. C'est-à-dire que je savais que c'était des lieux d'accueil. Alors c'était pas des chartreuses, hein, parce qu'on peut pas être accueilli dans une chartreuse. Mais il y a des monastères qui pratiquent l'accueil et qui pratiquent une vie monastique de silence. Et pour moi, c'était d'aller faire le point quand je terminais. C'était au début de ma carrière d'auteur de bande dessinée. Quand je terminais un livre, il y a toujours un moment
de doute
où je perdais pied un peu. Ouais. J'avais passé des mois à être un personnage. Tout à coup, je ne l'étais plus.
Ah oui,
avant
ce
de redémarrer
blues, d'après.
Mmh. Ouais, et pour moi, c'était une manière de, ouais, un peu de retrouver le cap, savoir ce que je voulais faire de ma vie. Qu'est-ce que j'avais envie de raconter, qu'est-ce que c'était d'être un humain sur cette terre, où était ma place, des grandes questions. J'étais jeune mais ce sont des expériences très fortes, et j'ai trouvé assez beau d'être accueilli par ces gens qui m'ont jamais demandé qui me demandaient rien d'ailleurs. Je venais, je m'asseyais à table avec eux, je mangeais en silence, j'allais parfois aux offices chantés qu'ils faisaient. Pour moi, c'était vraiment des moments de méditation. Autrement, j'étais là-bas toujours dans des endroits assez qui appellent à la contemplation, dans la montagne, dans des lieux qui effectivement évoquent aussi la beauté de la nature et une forme de solitude
et son immensité aussi.
Ouais. Et je me suis toujours dit quelque chose ressortirait de ça un jour pour faire un livre, mais sans vraiment savoir savoir quoi. Alors il y a des petites choses, forcément beaucoup de choses qui se sont passées dans ces temps de silence et de méditation qui ont dû aider à faire des livres, mais je pense que c'est ce livre-là qui en ressort 25 ans après. Donc il n'y avait pas une démarche d'aller à la rencontre de ce monde, puis j'avais été à la rencontre de ce monde monastique à l'époque, mais j'avais envie de le traduire aujourd'hui en bande dessinée, et puis de laisser venir l'histoire qui allait avec.
Dans cette histoire, dans cet héritage qui va sortir de son isolement, votre héros, William Zepp, il y a tout à la fois une promesse d'une autre vie avec l'argent, et avec une œuvre d'art. Et quelle œuvre d'art, Maudit Gagny? Est-ce que ça répond aussi à vos obsessions de vous qui travaillez dans le milieu de la bande dessinée, vous qui êtes connu, de se dire est-ce que on s'enferme dans ce monde qu'on aime bien de la beauté, de l'art, ou il faudrait se délaisser de tout, y compris de l'art?
Oui, ça fait partie des questions soulevées par ce livre. C'est vrai que du point de vue de William, qui est parti dans ce désert pendant 25 ans, tout ce qui semble très important à nos yeux n'a aucune importance pour lui. Il est dans un monde qui est déjà une forme d'éternité. Et donc, un tableau de Modigliani, de toute façon, lui n'est pas à renoncer aux richesses de ce monde. Donc, il le reçoit même pas pour lui. Il va au nom de sa communauté assister à cette lecture d'héritage en pensant que, enfin, on l'envoie bien malgré lui et il pense qu'il vient chercher de l'argent pour payer des réparations dans le monastère. Il se trouve qu'il hérite d'un tableau d'un nu féminin qui est une espèce de boutade à la fois et en même temps d'acte assez agressif de sa tante qui était très hostile à sa vocation et qui lui offre une femme.
Pour une fois, il aura une femme.
Il aura possédé une femme. Ouais. Et donc, voilà, lui, il ne sait pas quoi faire, évidemment, avec ça. Il ne sait pas. Mais j'avais aussi envie de montrer que si on prend un pas de recul, si on sort de ce monde, on a l'impression, nous, en étant à l'intérieur, que tout va très vite. Mais si on s'en extrait, il se passe relativement peu de choses essentielles. Il y a une scène que je me suis bien amusé à dessiner où il retrouve la ville. C'est la première fois qu'il retourne en ville. Et donc, la première personne qui lui adresse la parole, c'est une machine. C'est un distributeur où il va chercher son billet de train. Et voilà, il se fait bousculer par une femme. Donc, il dit, j'ai touché une femme. Pour finir, bon, ouais, il se passe pas grand-chose. Et il voit un kiosque de journaux. Et il regarde les unes des magazines. Et les unes des magazines, on se rend compte que c'est une espèce enfin, ce sont des choses qui reviennent. L'actualité, elle se répète. Et il dit, j'ai pas raté grand-chose, en fait. Il s'est pas passé grand-chose pendant mon absence. Et j'ai pris des unes qui étaient de cette période. J'ai redessiné j'ai pas redessiné les vraies unes, mais j'ai pris des titres qu'on a eu dans les journaux pendant que je faisais ma bande dessinée. À savoir les problèmes d'immigration, les politiques mis en examen parce que ils ont pas été corrects, le retour de Johnny. On peut imaginer qu'il y a 25 ans, ces unes étaient déjà là. Donc on a une illusion de vitesse, mais au fond notre monde va pas si vite que ça.
Enfin, pour terminer, Zepp, représenter le silence en bande dessinée, ça a été pour vous objet de recherche ou c'est venu naturellement? Vous saviez que vous alliez passer par ces couleurs, bleu, vert, ocre, par cette bichromie, par ces grands espaces représentés?
Alors, c'était une envie aussi du livre, c'était de dessiner le silence. Et pour moi, ça passait par une forme une forme un peu contemplative. Et c'est une forme de dessin que je pratique depuis longtemps. C'est-à-dire quand j'arrive dans un lieu que je ne connais pas, la première chose que je fais, c'est que je vais m'asseoir dans la ville et je vais dessiner. Et c'est une manière d'observer la ville complètement différente que de se promener ou que de faire des photos. Parce que tout à coup, on observe, mais on scrute. Et on va voir vraiment comment ça marche, comment ça tient, comment ça bouge.
Un bruit étrange et beau est édité par Rue de Sèvres. Merci d'être passé ce matin, Zep. Merci pour le dessin que vous nous laissez pour la page Pas au Doble. Un dessin où on peut nager dans la Seine, enfin. Les petits matins continuent. Dans un instant, vous retrouvez Émilie Chaudet.